Vous avez ces paroles de joie, de réjouissance, cet appel à la joie qui transparaît de cette épître. Donc ici, dans notre petit passage, vous avez ces deux « réjouissez-vous ». Il y a en tout, je crois, 6 fois le mot « joie » en 4 chapitres seulement, hein, et 3 fois le mot « l'appel à se réjouir ». C'est quand même très présent. Alors, on l'a vu la dernière fois, Paul est un peu vieux, et il paraît que c'est le propre de la vieillesse. On rabâche. Paul a pris des cheveux blancs, mais moi, j'adhère pas du tout à cette théorie. Les vieux ne rabâchent pas. Ils ont le sens de l'essentiel. Et l'essentiel est si précieux qu'on aime le dire en boucle. Le rabâcher. On aime le dire, le redire, de peur qu'il ne se perde l'essentiel. Même si la sagesse n'attend pas toujours le poids des ans, et qu'il existe aussi des anciens peu éclairés, hein. Mais pour Paul, avec les années d'apostolat, s'est décanté peu à peu l'accessoire du vital. Le vital qui a résisté aux épreuves de la vie, aux voyages, aux naufrages, aux persécutions, aux procès, aux années de prison. Cet épître, d'ailleurs il est en prison quand il écrit ça, cet épître aux Philippiens est une sorte de testament apostolique où se trouve souligné en rouge un mot, un simple mot, la joie. La joie, c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié. Et l'avant, c'est ce temps propice pour faire revenir la joie, pour ressusciter la joie dans les cœurs et s'interroger peut-être aussi. Qu'est-elle devenue chez nous, dans nos églises? Les églises du protestantisme historique, dont nous faisons partie, constatent en ce début de XXIe siècle que leurs effectifs s'amoindrissent, que la jeunesse ne suit plus, que les vocations se font rares. Et je m'interroge, ne serait-ce pas lié directement au déficit de joie dont souffrent nos cultes, peut-être nos services, notre témoignage chrétien? Je ne dis pas qu'il faille copier les nouvelles églises charismatiques en cherchant à reproduire à l'identique, et souvent en moins bien, leur format de louange et puis leur effervescence. Non. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que l'expression émotionnelle qui s'exprime dans ces assemblées soit nécessairement liée à la joie dont Paul parle ici. Mais ce qui est essentiel, c'est que l'Église ne devienne jamais un repère de tristesse, une cave à chauve-souris. C'est important. Parce qu'une église qui a perdu la joie a tout perdu. Quand elle n'a plus conscience de ce qui la fabrique, de ce qui la rassemble, ce qui la traverse, quand elle oublie ce qui l'appelle sur ce chemin de la vie qui est Christ, quand l'amour est mort, eh bien oui, l'église agonise lentement. Quand l'église a perdu la joie, elle a perdu son Seigneur Jésus. Et elle pourrait déployer toute son énergie en action sociale auprès des réfugiés, auprès des SDF, auprès des femmes battues. Elle ne dépasserait jamais le stade de la philanthropie. Déploierait-elle tout son zèle en programme d'évangélisation, en plan de restructuration, de revitalisation? si elle n'a pas la joie, cela ne sera que de l'activisme religieux. Sœurs et frères, si nos respirations, nos élans, nos projets, nos relations interpersonnelles ne puisent pas en permanence à la source de la joie qui est Christ, tout cela ne sera que gesticulation managérielle ou religieuse, cymbale qui retentit et, à terme, épuisement et culpabilité. Et l'Église a besoin d'autre chose que d'épuisement et de culpabilité. Réjouissez-vous à cause du Seigneur. Entendez bien ce que Paul dit ici. Il ne dit pas « réjouissez-vous, allez, ayez la pêche ». Il n'est pas question ici de la joie pour la joie. Nous ne sommes pas appelés à arborer un sourire béat derrière nos masques anti-Covid en plus, ou à danser, que sais-je encore, pendant les cultes, pour être des chrétiens joyeux. Ce n'est même pas dans nos petites personnes qu'il faut chercher la joie. C'est en Christ. Et il n'y a pas d'exhortation plus urgente pour l'Église aujourd'hui que celle-ci, frères et sœurs, retrouvez le Christ, retrouvez la joie du Christ. Bon, là, je commence à radoter un peu, hein, donc il faudrait que je passe à la suite. Si la joie est donc la première marque du chrétien, la suivante, c'est l'indulgence. Que votre indulgence soit reconnue par tous. Le mot grec qui est traduit ici par indulgence, c'est un mot qui indique le sens de la mesure, qu'on pourrait traduire le bon sens. Le bon sens qui donne le sens de la mesure, c'est-à-dire qui permet de ne pas faire une histoire de tout et de réfléchir calmement. L'indulgence recommandée par Paul ici peut être comprise comme un art de vivre. Ceux qui ont la foi en Christ ne sont pas mis sur orbite dans un espace spirituel totalement coupé du monde. Non, ils sont bien sur la terre. Ils doivent faire preuve de bon sens. Et le bon sens, c'est le sens commun. Il n'y a pas un bon sens évangélique. Il n'y a pas une sagesse hors sol à découvrir, fruit de révélations mystiques. Non, l'indulgence, c'est la forme laïcisée du pardon. Ça appartient à tout le monde. Cette valeur, elle est à la fois l'indulgence, compréhension, partage, même complicité avec tous. L'indulgence, elle me permet de dire à mon voisin athée, tu crois pas en Dieu ? Mais je t'estime quand même. Et on peut trouver des moyens de faire route commune par d'autres chemins que celui de la foi et du christianisme. L'indulgence, attention, ce n'est pas pour autant un relativisme. Elle ne dit pas que tout se vaut, que l'agnosticisme vaut la foi. Mais l'indulgence, c'est prendre un peu de distance, un peu de hauteur, pour trouver la possibilité d'une coexistence pacifique et fraternelle avec tous. La possibilité d'un compagnonnage avec tous les hommes, et non seulement avec ceux de ma tribu. Du reste, avec un peu d'honnêteté, dans ma tribu, ce n'est pas toujours le paradis relationnel. Et l'indulgence devrait être aussi un exercice un peu plus pratiqué dans l'Église. Alors, je referme la parenthèse. Surgit un troisième témoignage. C'est la disparition de l'anxiété. Et là, l'apôtre Paul fait référence à une parole majeure du Christ. Ne vous inquiétez de rien. Vous entendez cette parole du Christ, hein, qui résonne dans les évangiles. Exorcisez l'angoisse. Faites-la sortir de vos vies. Chassez l'angoisse. Ah, j'entends encore cette personne qui me dit « Pasteur, je n'y peux rien. Je suis de nature inquiète. » Eh bien, c'est précisément contre ces visions déterministes du monde, de l'existence, contre ces histoires écrites d'avance que le Christ est venu combattre. La nature a bon dos. C'est souvent quand je ne veux rien changer à mon comportement que j'invoque ou que j'incrimine la nature. Avec le Christ, on ne peut rester prisonnier de quoi que ce soit, pas même de soi. Si nous confessons avec confiance et fermeté que le Christ est proche, qu'il est là, tout près, juste derrière la porte, alors mes angoisses ont du souci à se faire. Et même si l'inquiétude est inscrite au plus profond de ma personne, suite à un vieux traumatisme, suite à un vice de fabrication, il n'en est pas moins vrai que la foi dans le Christ constitue ce remède puissant, cette arme redoutable contre l'angoisse. N'abdiquez jamais devant l'angoisse. Combattez-la. Et pour équiper encore un peu plus ses amis philippiens et ses amis pessaquais, Paul ajoute une arme puissante, l'arme fatale. Ça rajeunit pas, hein. C'est la prière. La prière dans tous ses états. Paul parle de supplication, d'intercession, d'action de grâce. Je ne sais pas comment en parler, parce que c'est toujours un peu une question difficile, la prière. Hein. Ça nous renvoie à l'intériorité. Mais l'idée est très simple. Vous avez des soucis, vous avez des montées d'angoisse, parlez-en avec Dieu directement. C'est ça, la prière. Dieu vous écoute, même quand vous ne faites pas de bonnes prières, même si vos demandes sont infantiles, mal ficelées, ridicules, et même s'il ne les exaucera sans doute pas. Une chose est sûre, Dieu prend très au sérieux l'angoisse de ses enfants, l'angoisse qui veut prendre la place dans notre existence et nous tenir prisonniers. Il ressent la souffrance de ses enfants, de nos cœurs, et souhaite nous en délivrer. Et lui en parler, c'est la meilleure façon d'entrer dans ce chemin de délivrance. Pour Paul, la prière, par excellence, c'est l'action de grâce. C'est la prière de reconnaissance. Celle-là, elle ne se trompe jamais. Dire merci, c'est être dans la vérité à coup sûr. Et inversement, à force d'oublier de dire merci, eh bien on oublie ce que l'on a reçu. Et on bascule dans la logique de la réclamation, de l'affirmation de ses droits. On fait de ses besoins des idoles. Et on ne sait plus voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies et dans celles des autres. Sans la reconnaissance, on quitte le chemin de la connaissance de Dieu. et on s'enferme dans l'adoration de soi-même. Voilà, j'avais voulu dans la diapo d'ouverture vous écrire des équations, ça doit être mon complexe de celui qui n'a jamais rien compris aux maths. Je fais des équations à ma façon. Belle alchimie quand même de la vie chrétienne que nous offre ce matin à méditer l'apôtre Paul. La joie à volonté, un peu d'indulgence, le refus catégorique de l'angoisse et la reconnaissance de toute manière. Et à ce prix-là, le prix de la gratuité donc, que la paix de Dieu, qui est au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen.